Georges Apergis, donc on vient de faire une visite de la friche. Moi, j'aimerais déjà, comme ça, que vous réagissiez sur cet espace, si vous voulez bien.
C'est un espace très qui fait penser beaucoup au transit, quoi, qui fait penser à des choses entre nous. Je ne sais pas, ça fait penser à des gares ou à des locaux où des gens en dérive peuvent squatter ou habiter ou passer. En tout cas, ça donne des possibilités de spectacle, quoi. Tout de suite, ça. Moi, ça m'a fait rêver.
Mm-hmm. C'est la première fois que vous venez dans ce type de lieu, comme ça, qui est en friche, où vous avez déjà participé à des expériences dans des espaces similaires.
Non, j'ai participé à des expériences comme ça, oui. Mais c'est pas à chaque fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas été confronté à un espace comme ça, quoi. Et chaque fois, c'est pas ça appelle tout de suite à intervenir, quoi. On a envie de faire des choses dedans, quoi.
Alors, j'aimerais bien que vous me disiez quelques mots quand même de votre parcours en rapport avec la musique. J'avais lu quelque part quelque chose qui m'avait assez ému, troublé même, c'est dire votre apprentissage. Vous me dites si je me trompe, mais votre apprentissage de la musique avec une amie de la famille, où vous avez découvert la difficulté, la rigueur. Chose qui ne semblait pas complètement vous déplaire, mais qui en même temps a marqué quelque chose, quoi, de particulier dans votre rapport à la musique.
Oui, c'était une période un peu noire pour moi, parce que c'était l'apprentissage du piano un peu difficile, quoi. Difficile parce que je pense que je n'étais pas du tout fait pour être pianiste, faire des concerts, des choses comme ça. J'étais plutôt... l'envie que j'avais, c'était de pouvoir jouer toutes les partitions. Quand j'avais 6 ans, 7 ans, quoi. Donc, ça n'allait pas avec l'apprentissage du piano, mais ça a duré 5 ans par là. Et quand j'ai eu 10-11 ans, après, j'avais suffisamment de possibilités pour pouvoir lire. Et à ce moment-là, je me suis éloigné de ma professeure en question. Et je trouvais des partitions un peu partout pour pouvoir les jouer, peut-être très mal, forcément, mais le fait de les jouer, ça me donnait un grand plaisir, quoi. C'est-à-dire que ça devenait quelque chose à moi, quoi. Je pouvais participer à ça.
C'est-à-dire que finalement, vous avez appris un peu l'alphabet de la musique, enfin, mm-hmm. le solfège, et ensuite, vous êtes allé à la rencontre des auteurs, des compositeurs.
Oui, je voulais les jouer. Mmh. Pas seulement les entendre à la radio, à l'époque c'était la radio, mais les jouer, quoi. Mmh. Jouer les accords, même si je ne pouvais pas les faire à la vitesse voulue, avec la vélocité qu'il fallait, je voulais que ça passe, enfin, ça me donnait un grand plaisir. Je passais des heures au piano, mais pas du tout pour faire les gammes, c'était pour lire des choses.
Alors, j'aimerais vous faire écouter quelque chose, parce que j'avais envie, c'est quelque chose que j'aime bien, tout simplement. Je voulais que vous réagissiez par rapport à ça, parce que c'est la rencontre de Jean-Sébastien Bach et d'Anton Webern. Webern qui est disparu au moment où vous apparaissiez. Donc, en plus, c'est un clin d'œil à la prochaine création Sextuor, par rapport à ces deux termes.
Thank you.
c'est l'offrande musicale de Jean-Sébastien oui. Bach par revisité en quelque sorte par Anton Webern. Vous connaissez bien, vous disiez. Ce sont des compositeurs qui que vous avez eu l'occasion donc de lire, d'interpréter.
Pas Webern, non. Ouais. Parce que en Grèce, je connaissais. Enfin, en Grèce, la chose la plus proche de nous que j'ai entendue, c'était les Actes du printemps. Mais je ne connaissais pas du tout Webern. Mais par contre, Bach, oui, forcément.
Quand vous entendez ça, comment vous vous... ça ou d'autres choses, hein, je veux dire. Comment vous vous situez, par rapport à ces musiques, qu'elles soient très... Enfin, Webern, c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'oreille des gens qui ont pu écouter. Mais par rapport à Webern, justement, comment vous l'avez abordé, comment vous l'avez...
C'est-à-dire qu'il applique sa théorie sur le... Enfin, même pas sa théorie, même sa pratique de ce qu'il appelait la mélodie des couleurs, c'est-à-dire les couleurs qui se succèdent, puisque la mélodie passe d'instrument à instrument, ce qui fait que les timbres changent presque note par note. Dans ses pièces à lui. Donc, il est appliqué dans l'œuvre de Bach et c'est très curieux, le résultat est très curieux, quoi. Ce qui est très bien, c'est qu'on entend toutes les voix de façon remarquable, quoi. C'est magnifiquement fait. Mais c'est comme si Mondrian avait coloré, une gravure de Holbein ou de. C'est un côté comme ça. Ce qui est très bien, c'est qu'on entend tout le temps et qu'il y a une deuxième. Comment dire ? Il y a une superposition d'une deuxième forme sur la forme de Bach. Il y a celle de la coloration, disons, de Webern qui s'ajoute. Donc il y a ces deux choses à entendre en même temps.
La peinture, la couleur, la forme, ce sont des choses qui sont importantes dans votre travail.
Oui, mais j'ai toujours les sons et l'espace ou la vision, quoi. Ça, c'est important pour moi. Oui. Oui.
Et la polyphonie, puisque
aussi,
on
oui.
parle de ça. Voilà, c'est. Quel est le rapport, enfin, où s'inscrit le rapport entre le. On va parler de sextuor en quelques mots, comme ça, peut-être, voir, enfin, essayer d'approcher déjà un début. Le rapport entre le texte et la musique, où il s'inscrit dans votre travail? Est-ce que c'est dans un rapport au sens? Est-ce que c'est dans.
Ça dépend des pièces.
Oui.
Parce que y a des pièces où comment dire, c'est l'équilibre qu'il y a dans la pièce. C'est-à-dire que. Il y a des moments où c'est très compliqué, en fait. Et c'est compliqué à dire, c'est pas compliqué à faire, mais c'est compliqué à dire. C'est que on sent, je sens très très fort à quel moment il faut, par exemple, laisser le spectateur dans l'ombre, le laisser un peu poireauter, le laisser attendre, de ne pas lui donner des signes précis. Pour qu'il puisse écouter et voir, mais ça, même étant un peu perdu, il faut le laisser se perdre, finalement. Et à quel moment il faut lui donner des choses précises pour le laisser perdre à nouveau. Voilà. Alors, il y a des pièces qui sont plus basées sur des choses précises à dire, à raconter, mais il y a des pièces où en fait, on est perdu, on se raccroche à ce qu'on peut. Et moi, j'essaye de l'attraper. Les gens, juste pour qu'ils ne se perdent pas complètement, ça veut dire qu'ils ne décrochent pas de la pièce, mais donc c'est bizarre. Par exemple, Sextuor, c'est une pièce qui est basée sur un texte. Donc on doit comprendre ces textes, puisqu'ils racontent les origines des espèces. Et en même temps, il y a des moments où le texte n'est pas présent et où on se perd. Parce que on ne voit absolument pas les espèces. En même temps, on croit voir les espèces. Enfin, c'est un peu ça le va-et-vient, quoi. Et par contre, il peut y avoir aussi des pièces où il n'y a pas de où qu'on croit comprendre est dérisoire. C'est un peu de chute, ce qu'on comprend. Mais en fait, on doit attendre les textes comme de la musique. Mais on donne sens à tout, donc on est habitué à donner sens à tout, donc on croit comprendre des choses, forcément. Et là, c'est des fausses pistes aussi. C'est une autre organisation. Mais c'est pareil, c'est finalement jouer avec le public, avec l'auditeur, le faire perdre et jusqu'à l'angoisse, des fois sans savoir, et puis le rattraper un peu, puis lui faire croire que c'est par là, et puis non, c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc jouer aussi avec la mémoire des gens, c'est-à-dire c'est sûr que quand il pleut et qu'il y a des sons de pluie, comme il y a dans la conversation, par exemple, les gens ont tous des souvenirs, on a tous des souvenirs de ça. Donc là, il y a une espèce de consensus là-dessus. Puis après, disons qu'après, il y a des contrastes par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quelque chose que on ne sait pas très bien ce que c'est. Des fois, on est un peu déçu. C'est un peu. J'essaye de programmer un peu ça. De programmer un peu les réactions.
C'est jusqu'où je vais le balader, jusqu'où j'ai le droit de le balader finalement. Jusqu'où j'ai le droit de le balader, et puis tout d'un coup, je ne peux quand même pas lui faire ça.
Oui, ça dépend des pièces. Des fois, je le fais. Oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ces jeux-là, quoi. En fait, c'est les jeux avec soi-même quand on est public. Hein, quand oui. C'est basé sur nos propres, sa propre écoute, quoi. Parce que c'est vrai que quand on écoute pour la première fois une pièce qu'on ne connaît pas, ben on passe par des différents. Surtout si la pièce est exigeante, on passe par des tas de moments différents et souvent des moments de découragement ou au contraire. Des fois, ça part très fort, et puis après, on se décourage, mais après, on retrouve. Enfin bon, il y a tout ça qui... Et puis on s'aperçoit qu'à la deuxième écoute, on n'écoute pas du tout de la même façon qu'à la première fois. Donc, en fait, c'est ces expériences-là qui font que... On essaye de retrouver ça dans sa propre musique, quoi.
Oui.
Est-ce
qu'on peut dire, par exemple, que dans Sextuor, il y a un texte qui est un petit peu incontournable parce qu'il y a un discours scientifique, comme si le sens devenait lui-même une matière à partir de laquelle on va pouvoir commencer à jouer comme on joue avec un morceau de pierre pour en faire sculpture, comme là, c'est non plus le texte, c'est-à-dire non plus la grammaire, les mots, mais le sens même porté par ce texte qui devient matière avec laquelle on joue, de telle façon que la violoncelliste peut dire à un moment donné... je croyais à la sélection naturelle et puis j'ai vu la vie, quoi. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire que le sens devient lui-même matière. Enfin, le contenu signifiant, scientifique de ce texte devient lui-même comme une matière avec laquelle on va commencer à jouer.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le comment dire, c'est ça la fausse piste.
Oui.
C'est-à-dire, c'est de faire croire que tout ce qu'on fait et par rapport à ce sens-là.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais pour nous, en travaillant, il ne fallait surtout pas illustrer ce sens-là. Il fallait fabriquer des histoires autres. Sachant que, forcément, le spectateur allait les unir.
Oui.
Parce que c'est inévitable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une des femmes fait un geste, ou qu'il y ait des duos, des trios, tout ça, on a l'impression que c'est lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est...
comme si c'était
les trilobites qui chantent, ou si c'est les arthropodes qui se mettent.
Comme si c'était ce que je disais tout à l'heure, à propos de cette notion d'expression corporelle, comme si le corps se mettait à dessiner un signe. Et en fait, c'est ça la fausse piste.
C'est ça.
En fait, le corps joue et non pas...
Il joue pas à être...
C'est une proposition de jeu.
Voilà, c'est ça. Mais indépendamment, il joue pas à être un animal.
Voilà, c'est ça.
Mais alors là, il y a des fausses pistes. C'est-à-dire que des fois, on va dans ce sens-là. Oui. Donc les gens se disent, ah ben oui, c'est sûrement des moustiques ou des...
Est-ce qu'on peut parler de malice? Malice au sens où il y a de la malice chez Corneille, par exemple.
Oui. Mais c'est exactement comme la sélection naturelle. C'est-à-dire que ce que le texte dit, c'est que c'est absolument imprévisible.
Oui.
Et donc... on a essayé de l'être aussi.
La question de la représentation musicale différente, c'est né d'une nécessité de... De quelle nécessité? Est-ce que vous pouvez l'exprimer? Parce que votre travail, quand même, se démarque de représentations plus classiques, musicalement, je parle.
Oui.
Il vous est apparu à un moment donné indispensable, urgent, de vous démarquer de ça.
Oui, je ne sais pas si c'était clair dans ma tête. Jamais. Je crois que c'est plutôt des glissements progressifs qui ont fait que je me suis retrouvé là, quoi. Mais je ne pense pas que ça a été une décision, jamais, quoi. Il y a surtout des goûts qui se sont affirmés, c'est-à-dire que j'étais plus proche, je sais que je... Je ne sais pas, aux années 65, 68, comme ça, j'écoutais plus de pièces de... Par exemple, j'écoutais beaucoup Kagel, j'écoutais Exotica, des pièces comme ça. Et j'écoutais des sons qui m'intéressaient plus que les sons d'un orchestre qu'on connaît, quoi. Et donc, j'avais fait une liste, par exemple, d'instruments divers qui pouvaient sonner autrement. Et quand on a commencé à travailler à la thème, il y avait surtout des instruments comme ça. Il y avait des... Et puis ensuite, il y a une chose qui est venue d'elle-même aussi, sans décision, c'était les objets, oui. Le sonore, les objets pas sonores, et les gestes, le comportement des gens. Ça, c'est venu, mais tout seul, quoi. Et puis bon, à force de travailler, ça aboutit à des spectacles, etc. Mais ce n'était pas une décision, hein. C'est des rencontres, des hasards, des gens qui étaient là au début de la thème, qui ont été très importants, parce que c'était des univers qui étaient présents, quoi, chacun avec ses préoccupations. Voilà. Il y en avait qui étaient préoccupés par le sens, par exemple. Et ils étaient très angoissés que ça n'a pas de sens, ce qu'on faisait. Ce sens, je veux dire, dans le sens théâtral, quoi, de... Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de trajectoire claire. C'était plus de la musique. Donc, comme c'était plus des gens de théâtre qui étaient là, ils étaient assez désorientés. Il y en a d'autres qui, au contraire, disaient qui étaient contents de faire l'action présente avec la musique présente, sans se préoccuper du sens. Il y avait toutes sortes de préoccupations et d'angoisses aussi, parce que on était quand même assez perdu au début, hein. C'était pas évident. Mais c'est à cause de ça, c'est ça qui a un peu formé, disons, le noyau de départ. Puis après, bon, après, il y a eu d'autres expériences. Et...
Oui, mais là, il y avait une question que m'intéresse aussi beaucoup. C'est, bon, je connais, moi, les choses par l'expérience que j'ai vécue. Ouais. Alors, je me rappelle d'avoir vu en forme concertante un opéra d'un auteur canadien qui est mort. J'avais vu ça, c'était d'ailleurs le GMEM qui était là tout à l'heure, qui avait invité ça à Marseille. Mm-hmm. Et c'était... Comment ? Un canadien ? Oui, c'est ça.
Vivier, oui.
Bon, et c'était c'était 15 personnes en frac qui donnaient ça comme des musiciens, hein. Donc en frac, hein, forme bien traditionnelle. Et alors, moi qui ne suis pas du tout formé à écouter cette musique-là, mais qui vient du théâtre, je voyais des actants, ce n'était pas des acteurs, mais des gens qui faisaient des gestes qui effectivement n'avaient aucun sens. Et alors, je me demandais comment on pouvait écouter ça. Parce que il y avait une sorte de rupture avec le regard, comme si cette rupture avec le... Enfin, c'est le rapport entre l'œil et l'oreille, quoi. Mmh. Que l'œil, en quelque sorte, empêchait l'oreille d'entendre. Mmh. Et puis, et je discutais après ça avec un des compositeurs de cette association marseillaise, le GME, qui avait invité ça. Il s'agit de Jacques Guéné. Et je lui disais, mais comment ça se fait? Et lui, il m'avait dit, tu comprends, la musique contemporaine a un peu loupé le coche. Et elle a épousé les formes de musique plus classique sans se poser la question de sa représentation. Et c'est peut-être un problème. Alors, sans remettre en question, moi, je crois, la nécessité de la forme concertante, il y avait là un problème que je trouvais résolu dans un certain nombre de spectacles que j'avais vus, que ce soit Énumération et que ce soit, bon, par la suite, Sextuor, mais un en particulier qui était H. Et alors, ce qui m'avait frappé dans H, je crois qu'on se l'était déjà dit d'ailleurs, ce qui m'avait frappé dans H, notamment par rapport à Énumération, c'est une espèce d'irruption du théâtre dans le spectacle, avec cette espèce de bras langoureux qui écartait le plateau comme ça. Et là, il y avait... moi, j'étais transporté par ce spectacle, hein. toujours homme de théâtre, hein. Et j'avais des copains musiciens, dont certains ont évoqué tout à l'heure, qui reprochaient en fait à Apergis une petite faiblesse musicale par rapport à ce spectacle. Moi, je suis incapable d'apprécier le bien fondé de cette critique, je ne sais pas ce que Apergis ou Antoine peuvent en dire eux-mêmes, mais ce que je sais, ce que je peux penser, c'est que cette volonté, ou cette non-volonté, mais enfin cette histoire qui a amené à Georges à faire ce qu'on a appelé le théâtre musical, c'est-à-dire à poser la question de la mise en scène du corps qui joue, lui a peut-être valu quelques difficultés avec ses collègues musiciens, non ?
Il y a pas... Ah oui, depuis le début.
En termes de reconnaissance.
Oui, oui. Mais là, oui,
c'est un metteur en scène, mais est-ce que c'est un musicien ?
Au début, c'était plus compliqué parce que je n'étais pas metteur en scène.
Oui.
Et que les gens qui m'aimaient bien disaient, mais pourquoi un type qui a tellement de talent, il va faire ça dans une banlieue,
oui,
antenne, tandis qu'il peut faire des trucs dans les festivals normaux, quoi.
Oui.
Et donc là, il y avait déjà au départ, ceux qui ne m'aimaient pas, ils étaient pas gentils du tout.
D'accord.
Mais là, par rapport à H, H n'est pas fini pour moi. C'est-à-dire, oui, c'est un spectacle inachevé.
Mais ça donne cette... Ça donne
c'est
bien,
un spectacle c'est... inachevé. Alors, ça a un bon côté, parce qu'il faut que ça soit inachevé, parce que oui, le dictionnaire, on ne peut pas...
Oui.
Mais en même temps, musicalement, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps matériel,
oui,
de faire prendre la musique qui était là. C'est-à-dire que, contrairement à Sextuor, par exemple, il n'y a pas eu le temps pour que les musiciens fassent passer la musique par leur corps.
Oui.
Donc, ils exécutaient la musique,
oui,
très très bien, parce que c'est des très bons musiciens, mais il n'y a pas eu le temps de s'approprier ça, si tu veux. Donc c'est vrai que c'était un peu bancal de ce côté. Enfin, moi, j'avais cette impression-là. Par contre, pour moi, c'est un spectacle qui... parce que je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais qu'il va porter des fruits plus tard, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que je fais une avancée là, dans ce spectacle. J'étais obligé, oui, par les lieux, par les volumes, etc., qui est resté là inachevé, mais qui va revenir. J'ai appris des choses, quoi, disons.
Oui.
Voilà.
Oui,
ça va revenir.
Est-ce qu'on peut dire que par rapport à Sextuor, c'est un oratorio.
Là, ça n'a rien à voir, quoi. Oui.
Tandis que H, c'est pas une forme répertoriée en termes musicaux, je veux dire. C'est pas aussi évident que ça, non ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, comme un chant
ouvert ? Non, c'est
ouvert
un peu la suite d'énumération pour moi.
H. Ah bon ?
C'est une espèce de, ouais, truc en expansion.
Oui.
Qui peut, c'est pour ça que je dis que ça va revenir sûrement, parce que,
oui,
c'est une chose que je sens bien, quoi, une chose d'accumulation, de choses qui amènent d'autres choses, et puis on sans fin, voilà. Sextuor, au contraire, c'est une espèce de représentation mentale complètement fermée, au contraire. C'est pas du tout une expansion, c'est une chose complète, c'est comme un œuf, quoi.
Oui.
Le rapport du théâtre. Le rapport du théâtre à la musique est assez intéressant, enfin, tel qu'il est situé dans cette discussion, parce que c'est vrai que si on prend toujours le problème du musicien et,
oui,
de l'homme de théâtre, disons, le musicien a toujours pour préoccupation essentielle de ses principes formels qu'il tente d'aboutir d'une manière abstraite. C'est-à-dire que la deuxième phase, qui est la phase de représentation, est quasiment exclue du processus d'écriture.
Oui.
Bon. Et c'est vrai que chez Apergis, enfin, en tout cas, dans ce qui concerne le théâtre musical, cette préoccupation est complètement différée. C'est-à-dire que le principe de formalisation initiale ne fait jamais abstraction du fait qu'il va falloir représenter la chose.
Oui.
Et donc, il y a ces deux étapes. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce petit conflit sous-jacent en termes d'écriture avec le milieu musical au sens strict du terme, de dire, bon, est-ce que Georges Apergis ne ferait pas mieux de concentrer ses moyens de musicien sur une formalisation abstraite. Et alors, à ce moment-là, se poserait toute la question de la représentation, et la question de la représentation n'est jamais aboutie sur le musicien. C'est bien le problème de l'opéra, par exemple, où, malgré toute la préoccupation formelle qu'a le compositeur au départ, après, il reste un champ complètement inexploitable, presque. Enfin, je sais pas, il y a les soldats qui jouent à Paris en ce moment, enfin, à partir de la semaine prochaine. Et Timmerman posait cette grande question, quoi. Comment représenter une œuvre qui, a priori, est irreprésentable ? Alors que le théâtre musical est un champ d'investigation qui permet, justement, de ne pas aboutir la forme dans son écriture pour la concrétiser, mais là, vraiment d'une manière fidèle, dans sa représentation scénique. Et là, le travail d'Apergis est absolument appréciable là-dessus, enfin, en tout cas, en termes de réflexion et d'aboutissement.
Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que, bon, tout à l'heure, vous parliez de Mignana. Est-ce que c'est trop hardi de faire un parallèle avec les auteurs, mais alors les écrivains, les auteurs dramatiques, qui, eux, écrivent sans une préoccupation absolue de la représentation, et puis ceux qui acceptent volontiers de remettre sur l'établi leur écriture, leur œuvre, quand l'écriture scénique alors commence à rentrer en jeu. Et est-ce que c'est à ce moment-là ce que fait volontiers Mignana, je veux dire, Mignana qui peut être auteur dramatique, j'allais dire en chambre, c'est-à-dire écrire dans une locale, une table, un bureau, une machine, un ordi, je sais pas comment il écrit, moi. Et puis aussi sur une œuvre comme ça qui est en gestation, de commencer à interpeller la représentation.
Mais là, il y a une chose qui change fondamentalement par rapport aux musiciens, c'est d'abord le ton. Le ton musical est très très contraignant. C'est une fois qu'il est écrit, on essaye absolument de le réaliser. Alors que le ton dramatique n'est pas écrit. C'est-à-dire, il peut être modulé. Et ça, là, le problème de la représentation dramatique, en fait, c'est une grande habitude d'adaptation, beaucoup plus grande que le ton musical.
Mais est-ce que c'est hardi de dire que c'est pas par hasard si vous commencez à imaginer de travailler avec Mignana?
Ah non, mais moi je travaillais déjà avec lui dans Jojo.
Oui, ben voilà, bien sûr.
Et Philippe, ce qui est très semblable à ma façon de travailler, parce que finalement, moi je n'écris pas du tout je n'écris jamais de musique prédestinée à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, dans Sextuor, je ne savais pas du tout à quel moment le duo, le trio, le quatuor seraient distribués dans la pièce. Dans Jojo, c'est pareil. Dans Hache aussi. C'est-à-dire que les musiques sont indépendantes. Il y a 12 solos, 13 trios, je dis n'importe quoi. Bon. Et on ne sait pas qui va les jouer et on ne sait pas avec quel instrument. Donc ça, on trouve sur place. Donc c'est des structures abstraites. Bon. Et Philippe, il a accepté ce travail-là aussi pour lui. C'est-à-dire que, par exemple, pour Jojo, il avait écrit des bouts de dialogue. Et après, je me souviens, avec des petites épingles, on coupait et on épinglait le dialogue autrement. On faisait des parcours complètement différents. Et lui, il trouvait toujours... Enfin, il s'amusait à trouver un parcours théâtral cohérent, même si on mettait tout à l'envers, etc. Donc, c'est ça qui est bien avec lui. C'est-à-dire qu'on peut vraiment partager la même aventure. Et là, quand on va le travailler, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commence par faire un premier jet. Ce premier jet, il nous sert à savoir à peu près ce qu'on va raconter. Et à partir de là, on découpe ça en petits morceaux, on fait une espèce de puzzle dans le désordre, et on s'amuse à faire des ordres différents jusqu'au moment où on s'est dit, là, c'est ça qu'il faut jouer, quoi.
Oui, moi, c'est les mots qui me plaisent, parce que on s'amuse, on joue, enfin, c'est...
Ah oui, on joue.
On construit des jeux,
mais
quoi.
Ça, c'est échapper au totalitarisme de la partition.
Voilà. Peut-être à beaucoup d'autres totalitarismes, d'ailleurs.
Sûrement, mais c'est vrai que la partition savante est totalitaire.
Oui.
C'est jouer comme des enfants, quoi. Mais finalement, une fois qu'on a fini de jouer, la partition est quand même là.
Oui.
Ah oui. Et il faut la répéter, il faut que ça soit au quart de poil, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est... Mais c'est vrai qu'on ne commence pas par un carcan... C'est-à-dire décider une fois pour toutes, ça me paraît de plus en plus difficile d'ailleurs, de décider une fois pour toutes chez soi de tout seul.
Ça peut être un exercice.
J'ai du mal, par exemple, là j'écris l'opéra, j'ai moins, c'est pas, ça me paraît moins évident qu'autrefois, quoi.
Mais c'est l'obligation à tout distribuer d'avance.
À tout faire, quoi. À tout faire, tout en sachant que on prend la décision, enfin, on choisit la solution numéro 12 et que les 11 autres sont aussi valables, quoi. Donc, pourquoi donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend de l'humeur, du jour, du machin. Ça revient à ça un peu. C'est un peu arbitraire parce que plus on avance dans ces métiers, plus on voit énormément de solutions possibles. Et à ce moment-là, pourquoi choisir celle-là, quoi? Si on les fait ensemble avec les acteurs, on sait pourquoi on l'a choisi, parce que c'est ou parce que ça nous amuse ou parce que on trouve que c'est la plus juste, mais enfin, sur l'état, sur le moment, c'est différent quand même.
Moi, c'est pas vraiment une question. C'est vrai qu'en repensant à l'énumération, il y a une chose qui est évidente, c'est que
vous faites passer la musicalité par le regard, en tout cas en tant que spectateur. Mmh. Et finalement, on se demande si c'est pas ça qui vous permet aussi beaucoup plus de possibilités au niveau du jeu. Mmh. C'est pas vraiment une question, hein, mais c'est parce que bon, je formule la pensée telle qu'elle me vient.
Mmh. Non, mais c'est vrai parce que on a remonté conversation là, donc c'est un spectacle qui a 8 ans. Et quand j'ai vu le premier filage avec les lumières, je me suis rendu compte que il y a une chose que je ne m'étais pas rendu compte, j'avais pas vu parce qu'on le faisait, donc j'étais dedans. Mais là, je l'ai vu comme un spectateur, je me suis rendu compte que la lumière, c'est-à-dire la façon dont le spectacle est éclairé, permettait d'écouter.